ETI Radio, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprises de taille intermédiaire, co-animée par Alain Marty et Richard Fremder, en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur, le groupe Ener, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnelles et Financière de Courcelles.
Bonjour à tous, bienvenue à bord de TI Radio. Vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte XTI Radio-du-Bas TV. À mes côtés aujourd'hui pour co-animer cette émission, Nicolas Lapeyre, directeur du développement de Généo Capital Entrepreneur. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Et Quentin Gros, directeur Exco Finance et Transactions Île-de-France. Bonjour Quentin.
Bonjour.
Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Jean-Pierre Gebhardt, CEO de Selectarc. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour.
Alors, vous êtes ingénieur à la base, vous avez travaillé sur les moteurs d'Ariane 5, ça fait rêver ça.
Oui.
C'est quoi? C'est un rêve de gosse qui se réalise pour vous ou c'est un hasard?
Un rêve de gosse, non. Je n'y pensais pas nécessairement au début, mais j'ai eu l'opportunité effectivement de commencer ma carrière en développant les vannes de purge pour le moteur principal d'Ariane 5.
Oui, extraordinaire quand même, comme aventure. Vous êtes allé la voir décoller?
Malheureusement, non.
Non,
j'ai eu la chance d'aller à Vernon, donc au centre d'essai, donc à 80 km de Paris. Mm-hmm. Mais j'ai pas eu la chance.
Mais c'est pas la Guyane. C'est pas la même chose. Ensuite, la fonderie, cimentier, etc. Et pas qu'en France. On dit que l'industrie en France est plutôt sclérosée. C'est pareil ailleurs? C'est ce que vous avez vu?
Oui, pas mal. En tout cas, en Belgique, d'où je viens, effectivement, c'est également un problème. En Allemagne, peut-être un peu moins. J'ai travaillé également en Allemagne. Là, c'est quand même le tissu industriel est quand même assez fort, voire même très fort. Hein. C'est la première économie européenne. Mais en France, effectivement, on souffre.
On souffre toujours ou est-ce que ça tend plutôt à revenir?
Ça revient tout doucement, mais ça prend du temps. Bon. C'est ce qui a déjà été dit auparavant. Il faut, pour reconstruire un tissu industriel, il faut des années et des années.
Oui, effectivement. Alors, Selectarc Group, c'est quoi? Dites-nous un peu.
Selectarc Group, c'est le seul et l'unique fabricant français de métaux d'apport pour le soudage et le brasage.
D'accord, c'est très pointu, très précis.
C'est pointu, précis, et ce sont des produits qui sont utilisés, je dirais, dans le monde entier et partout. Que ce soit le soudage ou le brasage, vous regardez autour de vous, tout est soudé, tout est brasé, que ce soit le mobilier, que ce soit, je vois ici l'air conditionné, vos frigos, votre voiture, il y a du brasage. Votre air conditionné de votre voiture, s'il n'y avait pas de brasage, ça ne fonctionnerait pas.
D'accord.
Et ce qui est aussi remarquable, c'est que quand on voit un reportage à la télévision et que l'on parle d'industrie, la première image que l'on voit, c'est un soudeur.
Effectivement. Alors, soudure, je vois tout à fait ce que c'est, mais brasage, pas du tout.
C'est de la soudure, mais à température plus faible. En fait, quand vous devez imaginer souder deux tubes de cuivre, si vous soudez avec une température très élevée, vous transpercez le tube et donc c'est inefficace. Donc, braser, par exemple, votre plombier a besoin de braser les tuyauteries pour amener l'eau et le gaz, par exemple. Bien, le brasage, c'est cette technique qui permet donc d'assembler mécaniquement des pièces, mais également d'assurer l'étanchéité.
Combien de salariés aujourd'hui chez Selectarc Group?
Donc, le groupe comprend 140 personnes, dont une trentaine à l'étranger. Donc, 110 personnes dans nos deux usines qui sont à Grand-Villard, donc dans le 90. Et à Roche-les-Beaupré, donc à côté de Besançon, dans le 25.
Bien. Nicolas, la soudure, ça vous parle ou pas du tout?
Mais ça me parle, mais voilà, vous le disiez, c'est intéressant parce qu'on le voit partout. Et en même temps, ça reste dans l'image, peut-être dans l'imaginaire, en fait, encore un métier où on n'est pas dans l'innovation. Alors je pense que c'est l'inverse. Hein, quand on voit dans tous les sujets que vous traitez aujourd'hui avec vos produits. Donc peut-être... Comment rendre plus concret pour nos auditeurs, en fait, l'innovation dans votre métier, ça ressemble à quoi?
Bien, il faut savoir qu'on a, dans notre gamme, on a à peu près 300 types d'électrodes différentes. L'électrode étant un des produits de soudage que l'on fabrique. Et vous vous rendez bien compte que si vous devez souder des métaux différents, vous ne pouvez pas utiliser une électrode universelle, c'est impossible. Donc, il faut développer des électrodes qui soient adaptées aux métaux que vous voulez souder. Ça, c'est un premier aspect. Mais il y a également... tout l'aspect nouvelle technologie ou en tout cas développement de technologies très pointues. Je parle par exemple du nucléaire. Vous imaginez bien que quand on doit souder des éléments, par exemple de la cuve du réacteur, vous devez être certain de la qualité des soudures que vous mettez en œuvre, auquel cas
c'est plus rassurant.
On est face à quelques problèmes beaucoup plus conséquents. Et j'en veux pour preuve d'ailleurs les problèmes que l'industrie nucléaire française a connus ces derniers mois, hein, avec les fissurations sous contrainte à chaud. et les réparations qui ont dû être effectuées de manière très, très complexe. On est aussi actif, par exemple, dans le naval, puisqu'on travaille avec Naval Group sur le développement et la fourniture de produits spécifiques pour le soudage des coques de leurs nouveaux sous-marins. Encore une fois, on peut comprendre que la soudure, elle doit être parfaite, faute de quoi, quand vous êtes à 200 mètres sous la mer, vous avez un petit problème. Donc, voilà, donc l'explication, ce sont des produits techniques, ce sont des produits avec un savoir-faire que nous avons, et le challenge technique, il est relevé, et on met tout en œuvre pour y arriver.
Autre question, là on est sur un territoire, on n'est pas, comme on dit en fait, dans les grandes villes françaises, mais par contre, on retrouve quand même là une très belle entreprise qui, elle, était internationale. Quels sont les défis, en fait, pour une grosse PME ou une ETI, en fait, d'une autre entreprise internationale dans les territoires qui sont en dehors de Paris, pour faire simple en France?
Bien, être attractif pour l'emploi. C'est clair que attirer du monde à Grand-Villard, c'est compliqué. Belfort, la plupart du temps, les gens vous demandent de situer Belfort.
C'est en France.
c'est en France. Quand vous dites c'est à côté de Bâle, là, on le comprend beaucoup mieux. Oui, attirer les jeunes talents, c'est sûr. Mais il faut savoir que nous sommes détenus par le groupe VMC, donc Villard, Mijon et compagnie, qui est une très vieille société française, puisque le groupe a été créé en 1796. Et que nous sommes, je pense, à la 8e génération. Emmanuel Gélard est notre propriétaire et le président de VMC. Donc, on a un très fort ancrage local, régional. Donc, comme je l'ai dit, à Grand-Villard, à Roche-les-Beaupré. Mais on exporte dans 90 pays. Donc, c'est une gymnastique de tous les jours d'assurer d'avoir le plein emploi, en tout cas, d'avoir les gens compétents à leur poste chez nous, mais également avoir les équipes commerciales qui soient capables de rayonner à l'étranger, notamment via nos filiales, hein, puisque nous avons des filiales au Canada, en Italie, en Inde. Nous avons des personnes en Thaïlande également et dans le Golfe.
Quentin.
Justement, en parlant de ces filiales à l'étranger, est-ce que aujourd'hui, pour maintenir la progression de votre chiffre d'affaires, ça passe forcément par l'international et par le développement de nouvelles filiales dans d'autres pays?
Alors, l'export, évidemment, l'étranger représente à peu près la moitié de notre chiffre d'affaires, donc c'est important, forcément. Mais nous avons aussi de grands espoirs de développer beaucoup plus le marché français. Donc, pour vous donner un exemple, donc, entre 2023 et 2030, nous prévoyons de plus que doubler le chiffre d'affaires en France, rien qu'en France. L'étranger, l'export est également très important. Nos filiales sont performantes. Le Canada est une très belle filiale chez nous. L'Italie est en plein boom suite à l'arrivée d'un nouveau CEO. L'Inde est également en pleine croissance, puisque l'Inde a un très gros programme spatial et que nous y participons, hein, puisqu'on a par exemple livré les produits qui ont servi à assembler les pièces de la fusée qui a amené leur module sur la Lune il y a quelques mois. Donc, on doit croître et on veut croître des deux côtés, donc tant en local sur le marché français qu'à l'étranger.
Et en restant justement sur cette thématique de la croissance, c'est quand même un secteur, la soudure, l'usinage, les fonderies. On a vu pas mal de rapprochements d'entreprises, pas mal de transactions finalement sur les dernières années avec des groupes qui se sont constitués. Est-ce que c'est votre velléité aujourd'hui peut-être aussi de prendre des parts de marché en faisant de la croissance externe?
Alors, on utilise souvent chez nous, là, on se compare souvent aux Zodiac au milieu des super tankers, et on veut le rester. C'est ce qui fait notre force. On ne veut surtout pas basculer dans la démesure et dans la compétition avec les majors dans le domaine. Eux, ils sont focalisés sur des très grosses séries, des très gros volumes, des quantités minimales de commandes très élevées. Nous, c'est surtout pas là-dedans que l'on veut aller. On veut rester dans la petite et la moyenne série et être capable de répondre très rapidement et de manière très spécifique aux besoins des clients. Donc, je dirais moyennement, mais on ira lentement, on va se hâter lentement. Voilà, c'est plutôt ça qu'il faut dire.
Hâte-toi lentement, oui, effectivement. Jean-Pierre, pour terminer, je crois que le droit des femmes dans le monde, c'est quelque chose qui vous importe.
Tout à fait. Donc, on essaye d'avoir la parité la plus juste possible, en tout cas au niveau du personnel chez nous. Au niveau du comité de direction, les hommes sont même minoritaires, puisque c'est 5-4. Donc,
c'est rare dans l'industrie.
C'est rare dans l'industrie. Dans l'usine, si on prend l'ensemble du personnel, on doit être autour de 35-36% de femmes. Donc, c'est important. Et puis, dans les filiales également. Donc, oui, effectivement, c'est un sujet important.
Même à titre personnel, c'est un sujet important pour vous.
Et à titre personnel également, avec ma compagne, qui est également très focalisée là-dessus. Donc, oui, effectivement, nous... nous y sommes attachés.
On peut comprendre. Merci beaucoup Jean-Pierre. Merci également à vous Nicolas et Quentin. Fin de ce numéro de TI Radio. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité sur nos comptes X et LinkedIn. On se retrouve mardi prochain 14h précise avec un nouvel invité.
L'invité de la semaine de ETI Radio, une production B2B Radio en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur, le groupe NR, Arkéa Banque Entreprise et Institutionnelle et Financière de Courcelles.